fait quoi ?
Il fait quoi ?
Il fait quoi ?
Il fait quoi ?
Sandra Millot.
Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Aujourd'hui, dans Il fait quoi ? Nous allons parler de coéducation. Suite à la parution de l'ouvrage intitulé « Coéducation, des clés pour une responsabilité partagée », nous accueillons Catherine Urtic-Delattre, chargée d'études au Centre Alain Savary de l'IFE-ENS de Lyon, qui en a dirigé la publication. Elle dialoguera à distance avec Xavier Conus, maître d'enseignement et de recherche au département des sciences de l'éducation et de la formation à l'Université de Fribourg dans la deuxième partie de cette émission. Puis Mélissa Zidane nous proposera un nouvel épisode de la chronique « Un mot à chercheur » autour de la notion d'envie. Mais accueillons d'abord Claire Jordanengo qui nous fait découvrir une monographie de l'École normale d'instituteurs d'Orléans.
La République était jeunette et son existence encore précaire. Le peuple, surtout celui des villes, la considérait un peu comme son œuvre. Il en espérait le progrès social qui mettrait fin à tant d'injustices et de misères. La prétendue belle époque n'était belle en réalité que pour les riches. Il se considérait son défenseur et pensait que son devoir était d'apprendre, de s'instruire. On lui répétait que seul un peuple éclairé méritait la démocratie et que l'ignorance avait favorisé et permis les régimes despotiques. C'est pourquoi un grand appétit de savoir posséda le monde ouvrier entre les années 1870-1900. La République s'efforça à le satisfaire par la création de cours du soir, d'universités populaires, de conférences.
On vient d'entendre une lecture d'Olivier Barrault de l'ouvrage « La République des instituteurs » de Jacques et Mona Ouzouf, reparu en poche en 2001 aux éditions du Seuil, qui évoque la formation de ces instituteurs qui vont former la jeunesse de France à l'école de la République. Bonjour Claire.
Bonjour Sandra. Alors aujourd'hui j'ai apporté deux gros volumes, ça nous change un petit peu d'habitude, sur l'école normale d'instituteurs d'Orléans. On conserve en effet à la bibliothèque toute une série de monographies sur la plupart des écoles de ces jeunes instituteurs et futures institutrices, donc à peu près 25 volumes qui couvrent presque toutes les écoles du pays. En général, ils ont été écrits par le directeur ou la directrice et ils sont de longueur variée. C'était une commande en fait qui leur avait été faite autour de 1898-99 en vue de l'exposition universelle de 1900. Et j'ai apporté celle d'Orléans pour plusieurs raisons, une bonne et une plus personnelle. Mais donc cette monographie, c'est la plus importante de toutes, la plus grosse. Elle fait à peu près 1200 pages et c'est donc les deux énormes volumes que j'ai évoqués. Elle est très détaillée, très vivante et aussi il se trouve que comme j'ai vécu à Orléans, ça me parlait un petit peu plus que certaines.
Votre honnêteté vous honore, Claire. Mais il semble assez fragile pour des volumes pas si anciens finalement.
Oui, ça c'est le sort de beaucoup d'ouvrages écrits vers cette période-là. Le papier est très acide et il est jauni et effectivement il a tendance à s'effriter, à se casser. Donc oui, ils sont très fragiles plus que d'autres beaucoup plus anciens.
Mais cet ouvrage semble être une vraie mine de renseignements pour l'histoire de l'institution.
Tout à fait, elle est intéressante à bien des égards parce qu'elle peut montrer à la fois la vie institutionnelle de l'école, la fondation, le fonctionnement, les différents conseils qui permettent de la gérer, le personnel enseignant et autres. Par exemple, chaque directeur a droit à une petite notice, un petit peu biographique, sur son parcours, sa formation, son origine géographique, y a même les prénoms de ses parents en général, l'âge auquel il est arrivé en fonction, etc. Du coup, par exemple, ça peut rendre possible une rapide étude sociologique sur ce vivier de recrutement et sur ce vivier de directeur. On peut également trouver tout un tas de renseignements administratifs sur le fonctionnement, ou bien rattacher aussi l'histoire de cette école en particulier à la grande histoire, entre guillemets, par exemple, comment l'école d'instituteurs s'adapte aux différents bouleversements politiques du 19e. Il y a tout un passage aussi sur les relations entre l'Église et l'école normale. Il y a des anecdotes, si on peut dire, sur des élèves qui ont été faits prisonniers, par exemple, pendant la guerre de 1870.
Et on remarque aussi qu'il y a des détails sur l'architecture et l'organisation des bâtiments.
Alors, effectivement, l'école est très bien décrite. On peut tout à fait étudier l'évolution des bâtiments, il y a des plans, il y a des photos globales, mais il y a aussi des vues en coupe de tout un tas d'endroits, par exemple les lavabos, le réfectoire, comment les tables sont disposées, il y a même des plans des toilettes. On va apprendre une foultitude de détails auxquels aussi on ne pense pas forcément. J'en ai pioché au hasard, mais par exemple, ils vont mettre en place un récollement annuel des objets qui sont présents dans l'école. Il y a des passages qui évoquent le matériel de gymnastique qu'ils ont, les les appareils qui restent dehors, les appareils qui restent dedans, comment l'école est chauffée. On s'aperçoit qu'il n'y a pas partout les mêmes instruments de chauffage, par exemple. Voilà, alors ça peut être des détails, mais en termes d'histoire architecturale, par exemple, ça, c'est important.
Oui, c'est ça. Cette attention portée aux détails est vraiment remarquable.
Ben, en particulier, comme la monographie est très très détaillée, d'ailleurs, au tout début, le directeur s'en excuse, il est bien conscient qu'ils ont largement dépassé ce qui leur avait été demandé. Du coup, bah, ça laisse à chacun, à certains professeurs, à l'économe, etc., la possibilité de développer un sujet qui lui est propre. Par exemple, il va y avoir tout un paragraphe sur le jardin de l'école, il va y avoir tout un paragraphe sur les excursions. On voit par exemple qu'on emmène les élèves maîtres dans les musées de la ville, mais aussi qu'on les emmène visiter des usines, des manufactures depuis le milieu du 19e. Et ainsi, bah, voilà, c'est comme ça qu'on sait qu'à Orléans, il y a de la papeterie, une fabrique de couvertures, une fabrique d'épingles, une fonderie de cloches, qui d'ailleurs existe toujours aujourd'hui. Ils font aussi des petites promenades géographiques dans les alentours, et pareil, on sait où ils sont allés, quand, etc. Donc, c'est très concret, à la fois sur leur formation, mais du coup aussi, ça dresse un tableau de leur environnement. La partie que je préfère, finalement, dans cette monographie, c'est la partie sur la vie à l'école, qui est constituée des contributions d'anciens élèves. Il y a à peu près 50 contributeurs, quand même, qui ont eu droit à une certaine liberté de ton. Donc, ces élèves ont différents âges, hein. Certains sont assez récents, en 1899, et d'autres sont déjà à la retraite.
Et alors, est-ce que vous pouvez nous citer quelques impressions ou souvenirs marquants que l'on retrouve dans ces monographies ?
Oh ben, ce sont des impressions personnelles ou des souvenirs. Ça va depuis la difficulté du lever à 5 heures au son de la cloche, la toilette dans la cour, aussi comment il y en a qui racontent comment ils volaient des prunes dans le jardin du directeur, parce que sinon, le directeur les gardait pour lui, mais en même temps, le directeur les comptait. Il y en a un autre qui évoque le fait que les lettres sont censurées, donc sont ouvertes avant que les élèves maîtres puissent les lire. Il y en a qui adoraient déjà aller à l'infirmerie, où on était dorlotés. Voilà, il y en a même qui disent qu'ils n'ont pas du tout aimé ces années à l'école normale. Donc voilà, et d'autres qui ont été très heureux. On sent que c'est assez libre.
Ben merci Claire pour la découverte de documents aussi riches d'informations pour quiconque s'intéresse aux conditions et à la manière dont on enseignait à la fin du 19e siècle. Retrouvons tout de suite nos deux invités. Catherine Urtic-Delattre, bonjour.
Bonjour.
Alors vous êtes chargée d'études au Centre Alain Savary à l'IFEENS de Lyon. Et vous avez un parcours très riche car vous avez été enseignante, formatrice, directrice d'école maternelle et coordinatrice de réseau d'éducation prioritaire.
C'est ça.
Et nous recevons Xavier Conus, bonjour.
Bonjour.
Alors vous êtes maître d'enseignement et de recherche au département des sciences de l'éducation et de la formation à l'Université de Fribourg.
Exactement.
Et nous allons parler ensemble, enfin en tout cas revenir sur la question de la coéducation, notamment suite à la parution de l'ouvrage intitulé « Coéducation, des clés pour une responsabilité partagée » que vous avez dirigé, Catherine Urtic-Delattre, et auquel Xavier Conus, vous avez participé. Voilà une question qui préoccupe de plus en plus la communauté éducative entre le constat de l'augmentation des inégalités scolaires et l'intérêt grandissant pour l'amélioration du bien-être des élèves. Elle semble pouvoir apporter quelques réponses, mais pourtant, elle reste encore difficile à mettre en œuvre.
Les professeurs, c'est important pour nous apprendre parce que les parents, ils travaillent.
Les profs, ils sont spécialistes pour ça, pour apprendre les règles de grammaire et tout, alors que les parents, pas trop des fois.
Je pense que l'école ne doit pas se substituer ou les parents ne doivent pas se cacher derrière l'école. Pour moi, l'éducation, ça vient des parents.
L'école, heureusement qu'ils sont là parce qu'ils leur apprennent aussi les limites. Hein.
S'il y a un manque d'éducation de la part des parents, l'enfant aura toujours ce manque.
S'ils sont bien élevés à la maison, en principe, ça se passe bien à l'école.
Toutes les professionnels ou les parents qui entourent l'enfant sont source d'éducation, quoi. Mais il faut que les parents suivent le professionnel.
L'éducation est l'affaire de tous. Et tout le monde doit s'en occuper. De la mairie, des parents, des enseignants.
Tous sont des repères et à un moment, de toute façon, je pense que l'enfant va trouver sa voie avec l'un des adultes qu'il va rencontrer.
Alors on entend une grande variété de réactions à la question de la coéducation, qui vont du traditionnel « c'est aux parents d'éduquer et à l'école d'instruire » à « l'éducation est l'affaire de toute la communauté », en passant par l'éducation, c'est à la fois l'affaire de la famille, mais aussi des professionnels, avec l'idée tout de même que les familles doivent suivre les professionnels. Est-ce donc dans la définition des rôles de chacun que réside cette difficulté à mettre en place une réelle coéducation ? Et surtout, c'est quoi exactement la coéducation ? Catherine Urtic-Delattre ?
Oui, je veux bien. Alors, la coéducation, effectivement, c'est l'idée d'une mutualisation entre tous ces acteurs de l'éducation qui sont bien apparus hein, dans cette petite capsule, qui sont effectivement la famille éducateur premier, la famille qui a le fil rouge de l'éducation depuis la naissance jusqu'à l'entrée dans l'âge adulte, et puis qui a les grandes décisions, et puis les professionnels, qui sont les professionnels de l'école, mais pas seulement, les professionnels aussi du loisir, du soin, l'ensemble des professionnels. Il y a également les non-professionnels, le voisinage, la famille élargie, et tous ces adultes-là interviennent auprès de l'enfant. Et l'idée de la coéducation, c'est effectivement l'idée qu'il y a une complémentarité entre tous ces acteurs et que le fait qu'il y ait une communication entre ces acteurs est bénéfique pour l'enfant. C'est une idée qui n'est pas universelle, qui n'est pas non plus éternelle. On n'a pas toujours pensé comme ça, mais aujourd'hui, il y a quand même un consensus pour se dire qu'il est positif que les différents adultes communiquent entre eux et mutualisent dans l'intérêt de l'enfant.
Xavier Conis ?
Oui, alors peut-être dans la manière dont la notion de coéducation se trouve appliquée à la relation école-famille, il me semble important d'ajouter qu'elle signifie s'efforcer de contribuer ensemble à l'éducation, mais la question de l'instruction et de l'instruction scolaire n'est pas absente non plus de la notion de coéducation. Et dans ce sens-là, c'est un terme qui est aussi venu s'ajouter à d'autres termes précédemment utilisés, collaboration, partenariat, par exemple, qui sont d'ailleurs encore préférés au terme de coéducation dans d'autres contextes que le contexte français, et qui avaient tous pour point commun, je dirais, d'inscrire la relation école-famille dans le registre d'une certaine proximité, en trouvant l'origine à ce principe, je dirais, dans tout un ensemble de travaux de recherche qui avaient montré, depuis la fin du XXe siècle, l'importance d'une collaboration de qualité entre l'école et les parents pour soutenir la réussite scolaire et plus largement éducative des enfants.
Plus spécifiquement, pourquoi ressent-on autant le besoin aujourd'hui de s'intéresser à cette question, de mettre en place la coéducation ? Est-ce que, par exemple, l'épisode de continuité pédagogique pendant les périodes de confinement a joué, d'après vous ?
Oui, alors sur un terme un peu plus long, c'est vrai que d'une manière d'un consensus sociétal, on constate que cette coéducation est quelque chose de bénéfique, notamment face à la question des inégalités scolaires, hein, dont vous avez parlé en introduction. Et puis, cette période de confinement, effectivement, elle a mis le projecteur, on va dire, sur cette coéducation, parce qu'effectivement, de manière non prévue, non choisie, les parents ont été aux premières loges pour finalement devoir s'occuper à domicile du suivi scolaire des enfants. Et ça a un petit peu boosté la relation, dans le sens où les enseignants se sont intéressés à ce qui se passe à la maison, se sont rapprochés des familles individuellement, ont pris conscience aussi des conditions de vie, etc. Et puis les parents ont beaucoup plus pris conscience aussi du métier enseignant. Donc il y a eu un rapprochement, il y a eu un phénomène de connaissance-reconnaissance, qui d'ailleurs a été documenté par la recherche, hein, suite à des enquêtes. Et puis, d'une certaine façon, à la suite du confinement, la période finalement où il y a eu des grandes réglementations avec beaucoup de précautions qui devaient être prises dans les écoles et qui ont amené finalement à remettre les parents à l'extérieur de l'école, surtout en maternelle. Au contraire, on a vu un phénomène de recul avec finalement une école qui est restée un petit peu entre soi, en recommençant à fonctionner d'une manière assez fermée. Donc je veux dire que le confinement met un projecteur spécial et en même temps a des effets et des contre-effets.
Xavier Conis ?
Je rejoins ce qui a été dit. Ce que j'ajouterais, c'est si la période de confinement a eu cet effet de booster sur la question de la coéducation, la coéducation a émergé bien avant. Et puis si elle est devenue aujourd'hui, ou je dirais il y a une dizaine d'années, incontournable dans les discours sur la relation école-famille, il faut pas l'oublier, notamment quand on entend parfois des professionnels de l'école se plaindre de l'implication excessive de certains parents. C'est quand même d'abord venu du monde scolaire et puis du fait d'une forme d'impuissance constatée de l'école à résoudre seule la double question de l'échec scolaire et des inégalités scolaires. C'est quelque chose qui a aussi joué un rôle important dans l'accent mis aujourd'hui sur la coéducation. Donc cette période de confinement a en effet eu cet effet ambivalent, à la fois d'accélérateur de la coéducation et de révélateur d'un certain nombre d'inégalités rencontrées par les enfants selon les contextes familiaux durant cette période d'école à la maison. Mais elle était déjà présente bien avant et allait chercher ses motivations, je dirais, dans d'autres facteurs bien plus antérieurs.
Catherine Urtic-Delattre ?
Oui, j'ajouterais, bien sûr, je suis tout à fait en accord avec ce qui vient d'être dit du côté d'un besoin de l'école, finalement, de rechercher des solutions, on va dire, en s'appuyant sur les familles. Mais je pense qu'il y a aussi d'autres choses. Il y a d'une part, du côté, pour le coup, des parents, et notamment des fédérations de parents d'élèves. Il y a une demande aussi qui est ancienne, qui historiquement, d'ailleurs, la notion de coéducation était très travaillée par les fédérations de parents d'élèves, qui ont revendiqué, finalement, cette coéducation. C'est-à-dire, on les a invités à participer, en tout cas en France, au rouage de l'école, mais ils ont dit, mais ça ne suffit pas. Si nous participons, nous voulons être des partenaires à part entière. Et ils ont été aussi acteurs dans le fait de penser cette coéducation. Alors là, plutôt du côté des parents, on va dire, de classe moyenne ou favorisée. Et puis, il y a aussi autre chose, c'est que la coéducation, c'est un phénomène d'éducation globale. Et que du coup, j'ai parlé tout à l'heure des partenaires de loisirs et de la santé, il y a aussi une réflexion du côté, par exemple, de la petite enfance, du côté, justement, des mouvements d'éducation populaire, du côté des partenaires culturels de loisirs, qui apportent aussi un côté global et qui aussi, eux, aussi revendiquent d'une certaine façon leur posture éducative et leur rôle et demandent aussi cette coéducation. Donc voilà, c'est aussi plusieurs facteurs, les différents partenaires de la coéducation qui, chacun de leur côté, cherchent finalement quelle place ils ont dans l'éducation des enfants.
Alors pour revenir sur ce que vous disiez sur ce système de connaissance-reconnaissance, on comprend bien que pour qu'il y ait coéducation, il faut qu'il y ait une forme de confiance finalement qui s'installe entre les partenaires. Mais alors comment mettre en place cette confiance? En gros, pour paraphraser un peu le titre de l'ouvrage, quelles en sont les clés? Xavier Conis.
Alors, il s'agit peut-être de commencer par se demander de quelle confiance on parle et de la confiance de qui. Dans le discours des professionnels de l'école, on entend souvent que la collaboration fonctionne lorsque les parents font confiance à l'école. Et dans ce discours, le risque est de voir la confiance comme une qualité des parents. Il y aurait d'une certaine manière, d'un côté, les parents qui font confiance à l'école, qu'on pourrait dire avec des guillemets, des bons parents. Et puis, il y aurait de l'autre côté les parents qui ne font pas confiance à l'école et avec lesquels on peut difficilement collaborer, avec lesquels la coéducation ne fonctionne pas. Et c'est un peu oublié parfois que la confiance se construit dans l'interaction et aussi dans le temps, qu'elle ne se décrète pas, qu'il ne suffit pas de dire aux parents qu'ils doivent faire confiance à l'école pour qu'ils le fassent, et que c'est quelque chose vraiment qui se construit progressivement. Et puis, il y a aussi des fois une autre tâche aveugle sur la question de la confiance. C'est une tendance à se focaliser uniquement sur la question de la confiance des parents envers l'école, envers l'enseignant, et puis d'oublier de s'intéresser à la confiance de l'école et des enseignants envers les parents, et particulièrement, je dirais, envers les parents considérés comme les plus distants du contexte scolaire. Donc, c'est quelque chose de complexe, et pour revenir à la question, je dirais que l'ouvrage, d'ailleurs, regorge d'initiatives qui donnent des idées sur comment travailler à favoriser l'établissement d'une confiance à la fois solide, durable et surtout mutuelle entre les parents et les professionnels de l'école. Ces initiatives qui sont aussi évoquées dans l'ouvrage, elles ont pour point commun, en général, de favoriser l'échange des points de vue et des savoirs, le croisement des savoirs aussi entre les parents et les professionnels, et de se faire dans une dynamique d'échange qui est à la fois horizontale et déformalisée. Peut-être pour évoquer quelques exemples concrets, on pourrait parler d'initiatives d'enseignants ou d'équipes écoles qui vont mettre en place des cafés parents professionnels dans l'école, proposer des temps d'activité aux parents durant des activités scolaires où les parents ont un rôle actif, ou bien encore transformer la réunion de rentrée d'un moment de transmission d'informations aux parents en un moment d'échange où il y a une place à l'expression des parents quant à leurs besoins et où ce temps de réunion de rentrée devient quelque chose de co-construit entre les parents et l'école.
Catherine Urtic-Delattre, vous avez des exemples de dispositifs justement dans l'idée de ce que vient de présenter Xavier Conis?
Oui, donc effectivement, comme l'a dit Xavier, l'ouvrage présente beaucoup de ces dispositifs et moi j'ai l'habitude en formation d'enseignants de dire aux enseignants que la confiance finalement ne se décrète pas, qu'elle ne s'invoque pas, on ne peut pas avoir une invocation, nous voulons que vous nous fassiez confiance, mais elle se construit, et elle se construit dans la réciprocité, donc elle se construit dans l'ouverture, dans l'explicitation et dans la réciprocité. Donc c'est en accueillant les parents, en les informant sur tout ce qu'on fait, en dialoguant avec eux, qu'on va construire petit à petit cette confiance. Voilà, donc effectivement, les dispositifs sont nombreux, il y en a un auquel je suis particulièrement attachée, ce sont les entretiens individuels systématiques, donc qui consistent à rencontrer tous les parents de la classe et non pas ceux dont les enfants ont des difficultés uniquement, et en amont de toute évaluation et non pas pour transmettre des évaluations, de manière à se connaître. Et effectivement, c'est une manière de dire aux parents « j'ai besoin de vous », parce que c'est vous qui connaissez bien votre enfant. Donc, ce que vous allez me dire va m'aider professionnellement. Et le fait de mettre en place cela, eh bien, ça construit déjà la confiance. Et quand ensuite, il faudra se rencontrer à nouveau, parce qu'effectivement, tel ou tel enfant rencontre des difficultés, ou parce qu'il y a eu tel ou tel incident, ou tel accrochage sur le parcours, eh bien, on a déjà ce terreau, on va dire, ce socle de confiance qui nous permet ensuite de s'écouter. Mais enfin, effectivement, il doit toujours y avoir un échange.
Puisqu'on parle des dispositifs, je vous propose d'écouter le témoignage d'Isabelle Berger, qui est enseignante en maternelle à l'école Michel Servet dans le 1er arrondissement de Lyon, dans l'excellent podcast Le micro est dans la classe, réalisé par Florence Sauvebois.
Donc je suis Isabelle Berger, enseignante en maternelle à l'école Michel Servet. Donc j'ai une classe de petits-grands. Je suis à l'école Servet depuis 4 ans. C'est vrai que le lab pour moi est important, parce que les parents de petites sections qui ne connaissent pas l'école, qui sont souvent très inquiets à l'arrivée de leur élèves peuvent venir se rassurer au lab et prendre des renseignements. Pour moi, c'est essentiel dans notre quartier, avec des familles qui arrivent de loin, qui parfois arrivent de l'étranger, qui n'ont pas toujours la maîtrise de la langue et qui, pour certaines, donc, n'ont pas les codes de l'école en amenant leurs enfants en petite section. Le rapport aux parents est complètement différent. On est beaucoup plus proche des parents. Les parents sont beaucoup plus impliqués dans l'école, mais sans outrepasser leur rôle de parent. Et nous, on sait qu'on trouvera toujours un relais de parents, notamment pour des familles qui sont beaucoup plus éloignées de l'école, pour faire passer une information, pour expliquer quelque chose qui serait peut-être difficilement compréhensible. Ça peut être au niveau de la langue ou au niveau des habitudes de l'école, des codes de l'école.
Alors je crois qu'on entend bien ici à quel point, et l'enseignante le répète, ce lieu est essentiel, notamment pour l'accueil des familles néo-arrivantes. Xavier Connus, vous qui travaillez notamment sur la relation de l'institution scolaire à l'inclusion de la diversité culturelle, qu'est-ce que ça vous inspire ?
Oui, alors ce que m'inspire cette capsule, je dirais que c'est à la fois de l'admiration et un questionnement, de l'admiration pour ce qui est mis en avant, parce que c'est vrai que prendre conscience du décalage qu'il peut y avoir entre la familiarité de certains parents avec le fonctionnement de l'école et ce qui est attendu, et puis le manque de familiarité d'autres parents, souvent des parents plutôt de milieux populaires, issus de la migration, qui vont souvent moins bien connaître le contexte scolaire et les codes quand il est question dans la capsule. Donc ce souci, je dirais déjà, cette prise de conscience de ce décalage qui peut exister, ce souci d'informer les parents de ces codes me paraît quelque chose évidemment d'extrêmement important. Après, un questionnement, parce que je rejoins notamment les travaux de Pierre Perrier en France, qui a beaucoup travaillé sur cette question de la relation école-famille, notamment dans les milieux populaires, et qui soulignait que oui, l'explicitation des codes attendus, de ce qui est attendu des parents, c'est quelque chose d'extrêmement important dans une visée d'égalité des chances, c'est de permettre à tous les parents d'entrer dans la coéducation. Mais l'explicitation seule n'est pas forcément une condition suffisante si derrière l'explicitation, on s'attend à ce que tous les parents agissent de la même manière dans la relation avec l'école et jouent leur rôle de la même manière. Alors, ce n'est pas du tout ce qu'a dit l'enseignante dans la capsule, mais c'est des fois une précaution à avoir, je dirais, quand on met fortement l'accent sur l'explicitation des codes et de ce qui est attendu aux parents, d'accompagner cela, d'une prise en compte de la diversité des parents aussi dans le type de relation qu'on met en place avec les parents, le type de collaboration qu'on met en place.
Catherine Urtic-Delattre ?
Oui, c'est pour ça que d'ailleurs ce lieu accueil dans lequel la capsule a été réalisée est un réel lieu de vie en fin de compte, un lieu en même temps d'information mais également d'échange, de convivialité, un lieu où les parents peuvent aussi parler de leur quotidien et de ce qu'ils rencontrent, pas seulement en termes de difficultés justement, mais en termes aussi de voilà d'actes éducatifs en général. Et ça me semble important pour ne pas être dans justement le fait de l'injonction éducative de la part des enseignants envers les parents.
Et bien pour continuer à parler de ce dispositif là, du lieu accueil parents, qu'on appelle plus communément le LAP, c'est un lieu dont la mise en place est coordonnée par la municipalité. Et c'est un point important à soulever, car le principe de coéducation ne repose pas seulement sur le binôme parent-enseignant, mais aussi sur des acteurs qu'on pourrait dire périphériques, comme peuvent l'être les milieux associatifs locaux ou les collectivités locales. Alors comment fait-on pour vraiment les intégrer à cette démarche ?
En fait, je dirais que c'est pas forcément l'école qui doit intégrer les autres à la démarche, c'est aussi elle qui doit s'intégrer à des démarches, puisque finalement, la notion de périphérique, elle est assez relative, hein, parce que finalement, dans la vie de l'enfant, l'école n'est qu'un moment parmi les autres. Frédéric Jésus qui a aussi collaboré à cet ouvrage, qui aime nous rappeler cela, hein, que finalement, si on compte le temps global de la vie d'un enfant, l'école n'est qu'une petite partie. Donc, si on considère la coéducation de manière globale, ou en tout cas l'éducation de manière globale, c'est justement le travail des projets éducatifs de territoire qui travaillent beaucoup là-dessus et qui ont souvent un axe coéducation. Et du coup, qui se disent, du point de vue de la collectivité, l'école est un des partenaires, mais les partenaires sociaux, culturels, sportifs en sont d'autres. Voilà, donc je crois que c'est aussi à l'école, d'ailleurs la démarche des cités éducatives aussi va dans ce sens, hein, de prendre sa place comme un parmi d'autres et non pas l'acteur central.
Pardonnez-moi cette question scolaro-centrée. Xavier Conus, vous avez une remarque aussi à ce sujet ?
Je rejoins complètement ce qui a été dit. C'est vrai que quand on parle de coéducation au sens large et du regroupement de ces différents acteurs, on a des dispositifs très différents qui se trouvent mis en place et on en a certains où finalement la coéducation se trouve quelque part déléguée hors de l'école, c'est-à-dire que l'école délègue à d'autres acteurs de travailler avec les parents, des acteurs communautaires, des acteurs associatifs, des acteurs du soutien à la parentalité, finalement de travailler avec les parents pour les amener à soutenir au mieux l'éducation et la trajectoire scolaire de leur enfant. Et puis on a des dispositifs qui vraiment amènent ces différents acteurs à se rencontrer et où l'école devient vraiment un acteur parmi les autres qui s'implique dans ce travail de relation, de coéducation avec ces acteurs à la fois communautaires, associatifs, issus de la municipalité et puis les parents. Et si on veut vraiment aller vers la coéducation, c'est vers ce deuxième type de système, je pense qu'il faut aller principalement. Dans le premier type de système, on a une tendance, une délégation, je dirais, de l'enjeu de coéducation, de l'école vers d'autres acteurs, qui fait souvent qu'il y a après des écarts, je veux dire, et des barrières qui restent dans la collaboration entre les acteurs.
Alors, toujours dans cette idée de généraliser le principe de coéducation, on n'a pas parlé de formation, et notamment de formation pour les enseignants. Et puis d'ailleurs, est-ce qu'il est possible de former des parents ? Alors, Catherine Vertic-Delattre, est-ce que vous pouvez nous dire où on en est un petit peu sur cette question ?
Alors, sur la formation des enseignants, c'est un point très important puisque depuis relativement récemment, la coopération avec les parents fait partie du référentiel de compétences des enseignants, quel que soit le niveau. Donc, c'est devenu une vraie compétence professionnelle. Il reste encore beaucoup à faire pour qu'effectivement, les actes de coéducation soient considérés comme des gestes professionnels à part entière. Et pourtant, ils le sont. C'est quelque chose qui est aussi développé dans l'ouvrage. On peut prévoir un dispositif avec les parents, par exemple une réunion avec les parents, de la même façon qu'on prévoit une séance avec les élèves. Donc, ça signifie de la programmer, de l'anticiper, de fixer des objectifs, de différencier selon à qui on s'adresse, de l'évaluer. Et exactement de la même façon que ce qu'on fait en classe. Pas exactement, parce que ce ne sont pas des élèves qu'on a en face de nous. Mais en tout cas, professionnellement, on le pense autant. Donc, il y a effectivement encore beaucoup à faire. Il y a heureusement maintenant de la place pour ce sujet en formation initiale et en formation continue. Et il y a beaucoup de demandes aussi du terrain sur ce sujet. Mais bon, la marge de progrès, on va dire, est encore grande.
Mmh. Xavier Conus, par rapport à la question de la formation ?
Alors, sur cette question de la formation, clairement, pour moi, ce sont les professionnels qui doivent être formés à la coéducation. Je me méfie beaucoup d'une idée de former les parents à la coéducation. Alors, je sais que c'est un terme parfois utilisé, y compris par des associations de parents, des fois qui mettent en place des activités de formation des parents à leur rôle de parents d'élèves. Mais pour moi, derrière ce terme, il est alors avant tout question d'informer les parents de ce qui est attendu d'eux, du fonctionnement de l'école et de tout un élément de choses. Et les informer, oui, évidemment, notamment sur les diverses manières dont ils peuvent collaborer avec l'école. Par contre, les former, l'idée de les former, ça entretient à mon sens la vision qu'il y aurait une manière unique pour les parents de jouer le rôle attendu d'eux par l'école et qu'il serait possible de former les parents à cela, au risque de retomber sur les inégalités que j'évoquais avant et sur la non-prise en compte, je dirais, des différences de bagages et de contexte qui caractérisent les différents parents. Et pour moi, c'est cette idée-là qu'il faut sortir dans la formation des professionnels en particulier, c'est déconstruire cette idée que la coéducation pourrait prendre une seule et même forme avec tous les parents. Et le vrai défi se situe dans la formation des professionnels, comme l'évoquait avant Catherine. Et à mon sens, c'est le développement d'une posture de coéducation dans laquelle les professionnels soient capables de diversifier les modalités de participation offertes aux parents, tout en acceptant que tous les parents ne s'engagent pas de la même manière dans la coéducation.
Eh bien, ce sera le mot de la fin. Merci à tous les deux d'avoir su instaurer sur ce plateau un climat de confiance mutuelle. On retrouve tout de suite la chronique « Un mot, un chercheur » autour de la notion d'envie avec Laurent Connefroy, professeur des universités émérite à l'École normale supérieure de Lyon. Chronique préparée par Mélissa Zidane.
Envie, besoins organiques, l'envie de manger, faim, de boire, soif, de dormir, sommeil.
C'est une définition qui associe étroitement envie et besoin, donc quelque chose finalement d'incoercible, hein, qui a besoin d'être satisfait. Le rapprochement avec le besoin, il est très rare dans la littérature qui traite notamment des questions de motivation. Si ce n'est chez Richard Ryan et Edward Deci, qui sont les créateurs d'une théorie qui s'appelle la théorie de l'autodétermination, et qui eux parlent de besoin psychologique à satisfaire. Donc c'est un mot très fort, hein, le mot besoin, parce que ça veut dire que s'il n'est pas satisfait, eh bien c'est la santé psychologique qui est en cause. Et eux parlent, par exemple, d'un besoin d'être compétent et d'un besoin d'être autonome et d'un besoin d'être en relation avec autrui.
Envie, désir d'avoir ou de faire quelque chose, désir que quelque chose arrive.
C'est une belle définition. Moi, elle me convient bien. Évidemment, on utilise ici le terme de désir, bon, qu'on peut tout à fait utiliser, mais qui en même temps n'est pas non plus un terme dans le domaine de l'éducation, hein, scientifiquement labellisé. Il est multifactoriel, le désir. Je veux dire par là, il y a plein de causes qui se superposent, qui s'ajoutent, qui parfois d'ailleurs sont en tension. C'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire que le sujet apprenant peut être aussi partagé entre différentes forces entre lesquelles il doit arbitrer. Le désir, c'est aussi la valeur que l'on accorde à une activité, quelle qu'elle soit, la valeur d'une formation, la valeur d'un apprentissage. Elle peut être liée tout simplement au plaisir que l'activité recèle. Ça peut être lié aussi à l'utilité qui va en découler.
Envie, désir de jouir d'un avantage, d'un plaisir égal à celui d'autrui.
Alors ça, c'est envie au sens d'envieux. Ça met en jeu ce qu'on appelle la comparaison sociale. Alors c'est un aspect qui travaillait aussi dans les théories psychologiques sur l'engagement dans les études, par exemple, sur la motivation, en particulier autour de la question suivante. Comment définissez-vous le fait d'être compétent? Certaines personnes peuvent ne pas être du tout dans la comparaison à autrui et se dire que bon, je me sens compétent parce que j'ai le sentiment d'avoir appris quelque chose, j'ai le sentiment de maîtriser quelque chose de nouveau. Mais d'autres peuvent se dire être compétent, c'est parce que je fais mieux que les autres. C'est la compétition. Et le déterminant de cette compétition, d'ailleurs, il peut être lié à des raisons problématiques. Par exemple, j'ai envie de faire mieux que les autres pour me prouver à moi-même et aux autres que je suis quelqu'un de bien et de compétent. Donc une raison qu'on pourrait peut-être considérer comme un peu problématique, parce qu'il y a une volonté, enfin, il y a une inquiétude autour de l'image de soi et l'estime de soi, par exemple. Mais ça peut être aussi pour d'autres raisons. J'ai envie de faire mieux que les autres parce que j'aime beaucoup les situations de compétition, je trouve ça excitant et j'en retire un plaisir intense. Et puis la compétition, elle joue aussi d'une autre manière. On peut se comparer à autrui pour se dire, pour moi être compétent, c'est éviter de faire moins bien que les autres. On ne va pas juger que je suis incompétent. Et donc oui, pour revenir à votre définition, la comparaison à autrui, elle est quand même forte, en particulier lorsqu'il s'agit de se penser comme compétent, ce qui est bien évidemment très fréquemment le cas à l'école ou à l'université, hein, le lieu par excellence où il s'agit d'être compétent et où on évalue notre compétence.
Envie, sentiment de désir mêlé d'irritation, de dépit qu'éprouve quelqu'un contre ceux qui possèdent ce qu'il n'a pas.
L'envie comme frustration. Là, on serait en quelque sorte à un stade ultérieur. On n'est pas au moment où on a envie d'entrer en compétition pour les raisons que j'ai décrites tout à l'heure, mais peut-être après cette tentative de faire mieux que les autres, par exemple, on n'y arrive pas. Et donc, il y a du dépit, il y a du ressentiment. Peut-être qu'on pourrait y associer le terme d'échec. En tout cas, ça peut être vécu subjectivement comme un échec. Donc, quelque chose qui est douloureux, soit qui éveille de la colère, du ressentiment, soit qui incite au contraire à se replier, à disparaître sous terre. La difficulté qui est liée justement au mot envie, le fait qu'il soit très général et qu'il ne soit finalement d'aucun secours pour l'élève. Quand le professeur lui dit que je vois bien que vous avez envie de vous investir, vous avez envie de travailler, vous avez envie de progresser. Par quelle voie faudrait-il manifester cette envie pour qu'il soit constructif et que, in fine, j'arrive à réussir? Et c'est très difficile pour un enseignant d'arriver à dépasser ce constat un peu un peu général. De même, lorsqu'on fait le constat de manque de motivation, mais ça veut dire quoi précisément? Et ça nous renvoie aussi à cet aspect que j'évoquais tout à l'heure, hein, donc du fait que la motivation, elle est multifactorielle, il y a beaucoup de choses qui sont derrière ça, et pour arriver à descendre à des niveaux un peu plus précis, et on conçoit que ça soit difficile pour un enseignant de le faire.
C'est la fin de cette émission, merci à toutes et à tous. À la réalisation, un réalisateur digne de confiance, j'ai nommé Sébastien Boudin. Vous pouvez retrouver toutes les informations sur le thème de la coéducation et sur l'ouvrage « Coéducation, des clés pour une responsabilité partagée » sur le site de notre web radio Cadécole à l'adresse suivante ife.ens-lyon.fr/cadécole. À très vite.